winds 120 knots to the west.
Radio X-Files avec Christian Page et Camille.
Oh my God.
Radio X.
Un chopé de poil à l'heure. Bonsoir. Bienvenue sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. Bienvenue dans Radio X-Files en ce mardi. Mardi thématique d'histoire de fantômes, de thématique de psychologie, comme dirait mon chef d'orchestre de cette émission. Et une petite musique pour nous mettre dans l'ambiance ce soir pour parler.
Brian Murphy. Brian Murphy. Hey, Brady Murphy did the rock and roll 100 years ago.
Brady Murphy, hey, Brady Murphy.
Brady Murphy was a little Irish kid, and she did the things that other children did.
Nous parlerons ce soir de l'histoire de Brady Murphy avec nul autre que Christian Page. Bonsoir, Christian.
Bonsoir, Camille. Oh, ça nous met dans l'ambiance. Succès, un bien grand mot, de 1956. C'était l'époque, justement, où tout le monde ne parlait que de cette histoire, l'histoire de Brady Murphy. Parce que, il faut savoir, bon, donc ce soir, on parle de vie antérieure. On parle de réincarnation. Parce que dans le cas de Brady Murphy, elle va être un des jalons importants qui va donner le ton à l'idée de la réincarnation dans le monde occidental. Donc, je t'explique un peu, là, on va se mettre un peu en bouche, là, cette histoire-là. D'abord, il faut savoir que la vision de la réincarnation, c'est une vision qui est relativement récente dans le monde occidental. On le sait, en Orient, dans des sociétés qui pratiquaient l'hindouisme, le bouddhisme et autres, il y a cette idée de la réincarnation, donc que l'âme, après la mort, va se trouver un autre corps. Et dans ces visions, par exemple, dans l'hindouisme, l'âme peut se réincarner sous la forme d'un papillon, d'un oiseau, d'un animal et autres. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que les parapsychologues utilisent, le mot savant, c'est métempsychose. Donc, on discute de la réincarnation dans les milieux de la parapsychologie pour définir ce genre de réincarnation où l'âme va se véhiculer d'un corps à un autre, mais pas forcément un corps humain. C'est ce qu'on appelle la métempsychose.
Okay.
Et il faut attendre la deuxième moitié du 19e siècle pour avoir en Occident, et principalement là, je dirais l'Europe et les États et l'Amérique, une autre vision de la réincarnation qui va se développer. Donc, on a toutes nos histoires de fantômes qui circulent depuis l'Antiquité. On a des récits de fantômes qui auraient été vus à Athènes, en géant mémoire, un vieux document, une vieille chronique athénienne du 1er siècle où des gens disent, bon, à Athènes, il y a une maison où on refuse d'aller parce qu'on la nuit, on entend des hurlements et des bruits de chaînes. Donc, on voit que les histoires de fantômes, souvent très imagées, était populaire, et même dans l'Antiquité, on en parlait. Mais vraiment, dans la deuxième moitié du 19e siècle, moi, j'aime ça, cette émission-là, parce que ça me permet de... C'est le professeur d'histoire en moi qui peut s'offrir un auditoire captif. Donc, dans la deuxième moitié du 19e siècle, va se développer le spiritisme. D'abord aux États-Unis, ça se répand rapidement, ça gagne l'Europe. Inutile de rappeler que c'est bien longtemps avant la radio et la télévision, donc ça devient pratiquement une activité bourgeoise. Les gens se réunissent, on fait tourner des tables et on entretient donc des communications avec les défunts, avec un répertoire, là, deux coups pour oui, un coup pour non, et donc on a ces échanges. Et parmi eux, on va retrouver des gens très importants. Il y a bien sûr les gens du peuple qui s'intéressent ou qui s'adonnent au spiritisme, mais on retrouve également une certaine bourgeoisie et même des têtes couronnées d'Europe qui vont s'adonner. La reine Victoria, par exemple, s'adonnait régulièrement au spiritisme et elle y croyait fortement, cette idée de la communication avec l'au-delà. Et en France, le mouvement spirit, parce qu'il y a le spiritisme, donc la communication avec les esprits, et de ce spiritisme va naître une religion, le spiritualisme. Et le spiritualisme, c'est la religion des esprits. Donc, il y a des enseignements, les esprits nous communiquent des choses et ces choses vont devenir une forme d'enseignement, vont s'établir un peu comme des dogmes. Et en France, ce mouvement, le spiritisme et le spiritualisme vont tourner autour d'un personnage qui s'appelle Hippolyte Rivail. C'est un professeur des petites écoles, comme on dit à l'époque. Il a écrit plusieurs livres pour l'école primaire. C'est un individu qui, au départ, quand le spiritisme commence à se répandre en France, aux alentours des années 1850-1860, Alan, ce type, Hippolyte Rivail, est très sceptique par rapport à ça. Donc, au milieu des années 50, à peu près, des amis lui parlent. Ah, il y a toute cette histoire, les gens communiquent avec des esprits, on fait tourner des tables. Ce Hippolyte Rivail est très sceptique. Il dit, parce que c'est un esprit cartésien, hein, il est professeur dans les écoles, tout ça, il développe l'esprit critique. Et là, on lui parle de ses communications avec l'au-delà. Il se dit, faudrait que je voie pour y croire. C'est une espèce de Thomas dans l'âme. Donc, il va assister à des premières séances de spiritisme et il est captivé par ce qu'il voit et en même temps intrigué. Et peu à peu, ce Hippolyte Rivail va se découvrir lui-même des habiletés de médium. Donc, plus besoin de passer par Madame X ou Monsieur Y, il suffit à Hippolyte Rivail de s'asseoir devant une table et rapidement, il y a des manifestations qui se produisent. Rivail croit qu'il canalise, qu'il est le canal d'un esprit, d'un druide décédé il y a des siècles, du nom de Allan Kardec. C'est le guide de Hippolyte Rivail, c'est Allan Kardec. Donc, pour l'univers, pour le milieu du spiritisme et du spiritualisme en France, Hippolyte Rivail va devenir Allan Kardec. Il va écrire des ouvrages éminemment importants dans l'histoire du spiritisme, notamment le Livre des Esprits, le Livre des Médiums, et avec Allan Kardec, alias Hippolyte Rivail, on voit apparaître les fondements de cette religion, le spiritualisme. Et l'un des enseignements, et là tu me dis, mais où est-ce qu'il s'en va avec ça? J'y arrive. Allan Kardec, dans ses dogmes que lui enseigne les esprits, on lui dit, l'âme ne peut pas se réincarner dans un papillon et dans un oiseau. L'âme, et c'est le principe même de la réincarnation dans le monde occidental, c'est le principe, on pourrait presque appeler ça le principe du kardécisme, la règle d'or, c'est naître, mourir, renaître et progresser sans cesse, telle est la loi. Et c'est d'ailleurs, cette phrase, elle est si importante que quand on visite le cimetière du Père Lachaise à Paris, la tombe d'Allan Kardec, alias Hippolyte Rivail, c'est la tombe la plus fleurie du cimetière. Tous les jours, des gens vont porter des fleurs sur la tombe d'Hippolyte Rivail. Et c'est amusant parce que peu de gens, en dehors des milieux spirites, peu de gens savent qui est ce mystérieux Allan Kardec. Et quand tu visites le cimetière du Père Lachaise, tu t'attends à ce que la tombe la plus fleurie du cimetière soit la tombe de Sarah Bernhardt, la tombe d'Édith Piaf, la tombe de Jim Morrison, mais ce n'est pas le cas. La tombe la plus fleurie du cimetière, c'est la tombe d'Allan Kardec. Chaque jour, des gens viennent déposer des couronnes, des hordes de fleurs. La tombe disparaît littéralement sous les fleurs, et principalement durant la période d'été où on laisse les fleurs pendant 2 ou 3 jours avant que les gardiens du cimetière les ramassent. C'est une tombe qui est magnifique, elle ressemble à un gros monolithe, et sur le fronton du monolithe, on peut lire « Naître, mourir, renaître et progresser sans cesse ». Telle est la loi.
Mais avec la même espèce, c'est ce que lui voulait préciser.
Oui, bien sûr. Donc, un être humain ne peut pas se réincarner dans un oiseau parce qu'on ne voit pas comment l'âme pourrait progresser. Le principe du spiritualisme, c'est que l'âme doit progresser, s'améliorer pour une réincarnation suivante, pour que l'âme puisse atteindre de plus haut niveau vers le nirvana, vers la bonté céleste, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est l'idée de Kardec. Et cette idée-là, où les gens se réincarnent dans d'autres êtres humains, c'est le premier fondement de la réincarnation telle que nous, le monde occidental, nous le voyons. Avec cette vision-là, on s'écarte énormément de la vision de la métempsychose entretenue par les hindouistes, par exemple, parce que pour la vision occidentale, si la réincarnation existe, l'âme ne peut progresser que d'un être humain à un autre. Okay. Donc, on a notre premier fondement qui a été annoncé par ce Allan Kardec, alias Hippolyte Rivail, qui va décéder en 1869 et avec le nom et on le désigne encore aujourd'hui et avec raison comme étant le pape du spiritisme ou le pape du spiritualisme parce qu'il est celui qui va mettre en place les premières règles de cette nouvelle religion basée sur les enseignements des esprits. Et là, il va falloir attendre l'événement qu'on appelle l'événement Bridey Murphy pour avoir la seconde démonstration qui va formaliser, si je puis dire, notre vision que l'on a de la réincarnation. Donc, allons-y tout de suite pour cette Bridey Murphy. Qui est-elle? On entend dans notre chanson qu'on a fait entendre au début, Bridey Murphy était une enfant du 19e siècle. En fait, Bridey Murphy, son histoire est un peu celle de Allan Kardec. Elle va être en fait la voix qui va parler à travers d'une jeune femme qui s'appelle Virginia Tighe. Donc, notre histoire qui est cette Virginia Tighe, hein, elle est née à Chicago en 1923. Elle a grandi avec ses parents naturels jusqu'à l'âge de 3 ans, ses parents divorcés. Après le divorce, Virginia a été confiée à l'un de ses oncles et bien sûr à l'épouse de cet oncle. Et elle va grandir donc dans la banlieue de Chicago. À 20 ans, elle épouse un soldat qui malheureusement décède l'année suivante au combat. Elle va déménager à Denver au Colorado où elle va rencontrer un homme d'affaires qui s'appelle Hugh Bryan Tighe. Ils se marient et éventuellement Virginia Tighe va avoir 3 enfants. Jusqu'ici, c'est l'histoire d'une femme dans les années 50, comme on en connaît, hein, la bonne mère au foyer qui élève ses enfants et qui s'occupe de sa petite maisonnée. La femme au foyer parfaite. Et voilà que, évidemment, elle est loin du paranormal, loin de la réincarnation. Tout ça ne fait pas partie de sa préoccupation. Donc, entre-temps, comme je l'ai mentionné, elle s'est remariée avec Bryan Tighe. Ils ont déménagé au départ. Ils vivaient à Denver, au Colorado. Ils vont déménager au sud de Colorado Springs, dans une petite ville qui s'appelle Puebla. Et donc, c'est là qu'on les retrouve en 1952. Et en 1952, on voit apparaître des formes de divertissement qui touchent parfois le domaine du paranormal. C'est l'exemple, par exemple, des magiciens qui font du mentalisme. Qu'est-ce que le mentalisme? Oui. C'est un art. Hein? J'ai des bons amis qui sont mentalistes, sont extraordinaires ici au Québec. Et donc, les mentalistes, c'est un art qui est voisin de la magie où, entre guillemets, le magicien, le prestidigitateur, nous donne l'impression qu'il a des pouvoirs surnaturels. Il donne l'impression qu'il est capable de lire dans nos pensées, de deviner d'avance ce que l'on va dire, ce que l'on va écrire, ce que l'on va dessiner. Donc vraiment, quand on est face à un très bon mentaliste, on a réellement l'impression que l'individu est doué de pouvoirs surnaturels. Mais bien sûr, c'est une forme de magie. Il y a toujours un truc. Et donc, dans les années 50, on voit apparaître ces mentalistes qui se distinguent, qui apprennent de plus en plus à se distinguer des magiciens de foire ou des magiciens à grand déploiement, à la Harry Houdini. Et en même temps, on voit apparaître une autre forme de divertissement qui est l'hypnose. Donc, de plus en plus, on voit des hypnotiseurs, comme ils se nomment sur scène. On en a eu au Québec, on a eu notre foire des hypnotiseurs au Québec dans les années 50-60. Pour les plus âgés, peut-être vont-ils se rappeler de Domino, hein, qui a fait des belles soirées de cabaret. On allait sur place et là, Domino choisissait des gens dans la salle, nous hypnotisait, il nous faisait faire toutes sortes de choses plutôt rigolotes. Bon, aujourd'hui, on a Mesmer qui fait exactement la même chose. Il utilise le pouvoir de l'hypnose et pour nous faire faire finalement des trucs qui sont tout à fait invraisemblables et qu'on ne ferait pas en temps normal. Donc, et c'est un peu mystérieux. Qu'est-ce que c'est que l'hypnose, l'hypnotisme? Donc, dans les années 50, c'est comme une nouvelle forme de magie dont on ne saisit pas tout à fait les méandres tellement que c'est complexe. Et c'est là qu'on retrouve notre Virginia Tighe. Hein? Tout ça semble s'éloigner. Mais crois-moi, on va tout regrouper ça ensemble. On est en octobre 1952. Les Tighe, hein, Virginia Tighe et son époux, Hugh Bryan, sont invités à une soirée par des amis, une espèce de soirée de mariage. Et on a invité des artistes, danseurs, musiciens et autres. Donc, c'est un grand happening. Et parmi les gens qui sont là, il y a un hypnotiseur, un dénommé Bernstein qui est là et qui lui donc veut montrer à quel point l'hypnose, parce que pour les gens c'est très mystérieux, fait que Maury Bernstein est là Et là, il dit, bon, ben, est-ce qu'il y a des gens... Je vais vous montrer le pouvoir de l'hypnose.
Est-ce qu'il y a des volontaires?
Est-ce qu'il y a des volontaires dans la salle? Je vais vous montrer le grand pouvoir de l'hypnose. Hein? Tout ça est très grandiloquent, c'est burlesque. Et là, bon, évidemment, il pointe des doigts dans la salle. Vous, monsieur, vous, madame. Et là, il pointe du doigt Virginia Tai. Il dit, vous, madame. Et là, il fait monter ces gens-là sur scène, comme le fait, pardon, Mesmer, comme le font à peu près tous les hypnotiseurs. Ils veulent savoir, est-ce que des gens qui sont plus réceptifs au commandement hypnotique que d'autres, hein? Et là, bon, évidemment, c'est des trucs simples, hein? Mettez vos mains, liez vos mains ensemble. À trois, je vais vous dire, vos mains sont soudées. Et là, donc, à trois, les gens ont toutes les mains soudées. Et là, il dit, essayez de vous dégager. Et là, évidemment, si on a pris 20 candidats, ben, sur les 20 candidats, il y en a 7 ou 8 qui vont faire leurs mains. Donc, ces gens-là sont moins réceptifs à la commande hypnotique. Ce que rencontre Murray Bernstein, Bernstein ou Bernstein, c'est que Virginia Tai, elle est excessivement réceptive à ce contact, à cette suggestion hypnotique. Donc, évidemment, on lui fait faire des choses, on reste dans la décence, hein, bon, tout ça amuse le groupe, mais Bernstein est fasciné de voir à quel point Virginia Tai est réceptive à l'hypnose. À ce moment-là, Virginia Tai a 28 ans, donc elle trouve ça plutôt rigolo, cette histoire de l'hypnose, et Bernstein... Et là, je veux pas choquer personne, là. Bernstein, je peux le dire Bernstein ou Bernstein, là. Bon, tout dépend de la prononciation. Et j'ai souvent entendu les deux prononciations, pardon. Oui. Donc, Bernstein dit, va réussir à convaincre le mari de Virginia Tai. Il dit, ben, ça m'intéresserait d'approfondir avec votre épouse toutes sortes d'aspects de l'hypnose. Et à ce moment-là, il faut dire qu'on est à un moment charnière. Bernstein n'est pas le premier à avoir l'idée d'hypnotiser des gens pour les ramener dans leur passé, voire même dans des vies antérieures. En fait, on a commencé à faire ça depuis les années 1930, mais on le fait avec une certaine légèreté et on y croit plus ou moins. Hein, ça nous amuse, on dit que c'est de l'imagination. Mais en même temps, à cette époque, on croit que l'hypnose et la mémoire fonctionnent de pair. On est convaincu que l'hypnose est un excellent outil pour raviver la mémoire ou raviver les souvenirs. Je vais en décevoir plusieurs sûrement, mais ça, c'est de la foutaise, là. Mais ah! Aujourd'hui, toutes les recherches menées sur l'hypnose et sur les sciences cognitives montrent que la pire chose que tu peux utiliser pour raviver des souvenirs effacés ou oubliés, c'est l'hypnose. Ça ne fonctionne pas. Dans le seul univers où on continue de croire que l'hypnose et la mémoire fonctionnent bien ensemble, c'est dans l'univers du paranormal. Donc, on prend des gens, on les hypnotise, on les envoie dans les vies antérieures, on prend des gens, on les met sous hypnose, on leur fait raconter leur vie, leur enlèvement par des extraterrestres. Mais c'est la seule place où tu vas trouver ça. Dans le domaine, si on sort de cette grande bulle du paranormal, et tu vas dans le domaine de la psychologie, de la psychiatrie, des neurosciences, des sciences cognitives, tout le monde sait depuis au moins 30 ans que l'hypnose ne sert absolument à rien pour raviver la mémoire ou des souvenirs oubliés. Au mieux, ça ne fera rien. Au pire, c'est que sous hypnose, sous une commande hypnotique, hein, c'est un état altéré de la conscience, l'hypnose, les individus ne sont plus capables de faire la distinction entre la réalité et le fantasme. Donc, si je te pose la question, je te dis, bon, ben voilà, Camille, tu as assisté à un vol de banque, est-ce que tu t'en rappelles? Non, je ne m'en rappelle pas. OK, parfait. Ben, bon, essayons d'avoir même si tu ne t'en rappelles pas, essayons avec l'hypnose d'avoir une description de l'agresseur. De quelle couleur, par exemple, était son manteau? Si pour toi, ta couleur favorite est le bleu, ben, t'as 9 chances sur 10 de me dire que le manteau de l'agresseur était bleu.
Ah, mais là, la fiction est en train de briser tout, Christian.
Voilà.
Donc,
ce scénario que tu t'inventes au fur et à mesure sous hypnose pour essayer de donner un corps ou un narratif à l'expérience, au sortir de ton état hypnotique, tu auras la conviction que ce souvenir est bien réel. C'est ce qu'on appelle dans le domaine des pseudosciences, mais des neurosciences, c'est ce qu'on appelle le faux souvenir. On a créé un souvenir en toi qui n'est pas vrai. Et pour toi, ce souvenir-là d'avoir été victime d'un vol de banque par un agresseur qui avait un blouson bleu deviendra pour toi aussi réel que le souvenir que tu es allé chez IGA, par exemple, faire ton épicerie. Et tu ne pourras plus faire de distinction entre le faux souvenir et le véritable souvenir. C'est pourquoi, depuis une trentaine d'années maintenant, les psychologues et les psychiatres sont excessivement prudents sur l'utilisation de l'hypnose lors de séances de pseudo d'hypnothérapie ou de, parce qu'il y a beaucoup de gens qui présentent ça comme étant de la thérapie ou de l'hypnothérapie. Mais là, on est voisin des pseudosciences, là. Donc, faut faire attention. Si ce n'est pas fait par un professionnel, on risque d'induire l'individu dans l'erreur et de lui faire imaginer des choses qui ne se sont jamais produites. Mais bon, on n'entrera pas dans ce détail-là. Il y aurait tout un débat à faire et je crois que ce serait un débat qu'on pourrait faire entre des psychologues et des psychiatres, des neuroscientifiques, ce que je ne suis pas. Mais par contre, dans les années 50, on croyait fermement cette réalité-là. Parce que sous hypnose, les gens racontaient toutes sortes de choses. Ils étaient capables de raconter des souvenirs de leur enfance. Hein, je me rappelle, par exemple, quand j'avais 1 an. Aujourd'hui, on sait dans le domaine des sciences cognitives que le cerveau ne peut pas conserver le souvenir d'un événement alors que le cerveau est en plein développement à ce moment-là. À l'âge de 1 an, si quelqu'un te dit, Camille, qu'il se rappelle des choses quand il avait 1 an ou 1 an et demi, c'est un faux souvenir.
À partir
de 3 ans, à peu près, le cerveau est assez formé pour pouvoir emmagasiner des souvenirs bien réels.
Okay.
Mais avant l'âge de 3 ans, mettons avant l'âge de 2 ans et demi, ça devient excessivement problématique. Et avant l'âge de 2 ans et demi, c'est de la foutaise. Donc, les gens qui disent, moi, je me rappelle, par exemple, à 1 an, j'étais dans mon berceau et, le berceau s'est renversé, puis je me rappelle, j'avais tout mon ourson en peluche. C'est parce que ses parents lui ont raconté cette anecdote-là, des oncles, des tantes lui ont raconté cette anecdote et se l'est recréé dans sa mémoire, mais il ne peut pas, physiquement, neurologiquement parlant, il ne peut pas avoir gardé le souvenir de cet événement-là alors qu'il avait 1 an. C'est impossible.
D'accord.
Donc, mais on sait pas ça dans les années 50. Hein? On s'imagine que le cerveau est une banque extraordinaire, une espèce comme de disque dur, même si l'ordinateur n'existe pas. Mais on pourrait faire l'analogie un peu comme un disque dur et l'information que l'on met dessus reste gravée. Il suffit d'avoir le bon logiciel pour aller chercher l'information. Et on croit dans les années 50 que ce bon logiciel, c'est l'hypnose. Donc, Bernstein s'entend avec Virginia Tighe, avec son mari, pour pouvoir procéder à des séances où il va placer sous hypnose Virginia Tighe et faire une exploration de sa vie passée, donc de son enfance, de sa petite enfance, et peut-être même d'aller plus loin. Et donc, Virginia Tighe, toujours très réceptive aux commandes, tout ça va se passer dans la résidence des Tighe, qui se trouve, comme je l'ai mentionné, à Puebla, et ça va durer pendant 11 mois, et il y aura là 6 séances durant ces 11 mois, des séances de 2 heures dans lesquelles Bernstein va placer Virginia Tighe sous hypnose. Au début, et bien sûr, elle raconte des événements qui font partie de sa vie bien réelle, hein, sa vie actuelle. Elle se rappelle quand elle avait 16 ans, par exemple, qu'elle est allée au bal. Elle a même fréquenté l'université, la Northwestern University en banlieue de Chicago. Donc, elle raconte des événements alors qu'elle était à l'université. Elle raconte des événements un peu plus anciens, hein, quand elle avait 11 ou 12 ans, sa première balade en vélo. Et voilà que Bernstein l'amène peu à peu vers une vie qui n'était pas la sienne, une vie antérieure. Et c'est au moment où elle aborde cette vie antérieure qu'elle va révéler la vie de Bridie Murphy. J'ai pour toi un petit spécial ce soir, un petit extrait d'une séance d'hypnose entre Bernstein et Virginia Tighe, et c'est la première fois qu'elle va dire à Bernstein qu'elle est Kelly Brady Murphy. On écoute ça.
Now you're going to tell me what scenes came into your mind. What did you see? What did you see? What is your name?
Friday.
Your name is what?
Friday.
Don't you have any other name?
Friday Murphy.
Where do you live?
I live in Cork. Cork.
Is that where you live?
Mm-hmm.
And what is the name of your mother?
Kathleen.
And what is the name of your father?
Duncan. Duncan Murphy.
How old are you?
4. 4 years old.
And you scratched the paint off your metal bed?
Yes. Scratched the paint off.
All right.
OK, donc elle a 4 ans. Là.
Elle, au moment où elle raconte ça, elle a 4. Écoute, j'en ai des frissons parce que on est... Écoute, pour les gens qui connaissent l'histoire du paranormal, c'est l'histoire qui est en train de s'écrire. Là. Donc, Virginia Tighe raconte l'histoire de Bridie Murphy. Elle raconte ses hypnoses, donc elle est née à Cork, en Irlande. Elle est née à la fin du 18e siècle. Elle est née, en fait, en 1798. Elle va vivre jusqu'en 1864. C'est ce qu'elle raconte toujours, ses hypnoses, on s'entend bien. Elle va décéder à l'âge de 66 ans. Elle va décéder des suites d'une mauvaise chute. Elle s'est blessée à la hanche. Il va y avoir des complications et elle va décéder à l'âge de 66 ans. Sous hypnose, on l'a vu là, dans le court extrait qu'on a entendu, elle dit que sa mère s'appelle Kathleen, que son père s'appelle Duncan. Murphy, bien sûr. Son père, elle va raconter plus longuement dans la séance. Elle raconte que son père est avocat. Elle dit également qu'elle a un frère qui s'appelle également Duncan, hein, Duncan Junior. Elle dit que toute la famille vivait à Cork, dans un lieu dit les Meadows. Elle dit que c'est une petite bourgade qui a plusieurs maisons et elle vit là, les Meadows. Elles font partie évidemment d'une classe assez aisée, hein, une classe bourgeoise. Le père est avocat. Elle raconte qu'à 17 ans, et là évidemment tout ce que je te raconte là, il faut prendre ça avec un grain de sel, hein. C'est ce qu'elle raconte sous hypnose.
Oui,
on va
oui.
revenir après à ça, là. Donc, elle dit à 17 ans qu'elle a épousé un certain Sean Brian McCarthy, qui était lui aussi un avocat de profession. Donc, elle épouse ce McCarthy. Elle dit également que ce McCarthy enseignait le droit à la Queen University de Belfast. Et elle va d'ailleurs déménager, hein, parce qu'on est en Irlande, elle va déménager d'ailleurs à Belfast après son mariage avec M. McCarthy. Elle raconte également qu'elle n'a jamais eu d'enfant. Et donc, ça, c'est pour ce qui est de sa vie. Elle raconte également, à travers cette conversation qu'elle a avec Bernstein, hein, au cours de ces fameuses séances qui vont durer pendant 11 mois, elle raconte des détails tout à fait anecdotiques, mais tu vas voir qu'ils ont leur importance. Elle dit, par exemple, qu'elle se rappelle avoir lu un livre qui s'appelait « The Green Bay ». Elle dit qu'elle s'est mariée à l'église Sainte-Thérèse de Belfast. Elle dit que son mariage, durant le mariage, avec les invités, tout ça, il y avait des danses. Et elle dit que selon une tradition locale, les gens qui étaient là, qui dansaient avec elle, mettaient de l'argent dans les poches de sa robe de mariée. Donc, c'est très anecdotique quand même comme information, mais bon, on en prend note. Elle raconte également qu'elle voyage dans la région. Hein. Elle va voir ses parents à Cork, elle revient à Belfast. Ils font le trajet là, soit sur des carrioles ou soit en train. Et elle raconte avec beaucoup de détails les paysages qu'elle voit. À un moment donné, Bernstein lui dit « OK, regarde autour de toi, qu'est-ce que tu vois ?» Et là, elle décrit des parcs, elle décrit des moutons, des élevages. Donc, elle met beaucoup de détails sur sa description, disons, géographique ou de l'environnement dans laquelle elle se trouve. Elle se rappelle aussi qu'elle achetait, lorsqu'elle était petite fille, elle achetait des friandises chez un commerçant du nom de Monsieur Farr, F-A-R-R.
Okay.
Bon, elle dit, j'achetais mes friandises chez Monsieur Farr. Et on l'a entendu aussi un peu dans l'extrait, là, juste au moment où le son diminue, là, quand j'ai coupé l'extrait. Lorsqu'elle se retrouve à l'âge de 4 ans, elle dit, je suis en train de gratter la peinture sur mon lit en acier.
Oui.
Hein? Donc, elle dit que quand elle était petite fille, elle dormait dans un lit en acier. Tout ça fait partie de la biographie de cette Bridie Murphy là, qui aurait vécu là, dans la première moitié du 19e siècle. Cette histoire-là, elle est si extraordinaire, tellement documentée, tellement convaincante, parce que sous hypnose, Virginia Tighe, à certains moments, elle revit un peu les événements dramatiques qui ont marqué sa vie sous les traits de Bridie Murphy. Donc, les premiers compte rendu de ces discussions sous hypnose sont publiés dès l'automne 1954 dans le journal Le Denver Post, qui va faire d'ailleurs deux séries d'articles très importants sous la plume du journaliste William Barker, qui va décrire un peu les séances qui se passent sous, bien sûr, la tutelle, le commandement de Bernstein. Le livre de moi, bon, évidemment, on essaie de protéger l'identité de Virginia Tighe à la fois dans les articles du Denver Post. On surnomme la dame Ruth Simons. C'est le nom qu'on lui donne. Et c'est le nom également que va prendre Maureen Bernstein dans son livre qui est publié en 1956 chez Doubleday, qui s'intitule « In Search of Bridie Murphy », à la recherche de Bridie Murphy. Le livre, d'ailleurs, va être traduit au début des années 1970. De mémoire, c'est en 71 ou 1972. Le livre est publié en français. Il est publié notamment en format poche. Les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être des mordus du paranormal, connaissent certainement cette mythique série qui a été publiée dans les années 70, dans des livres aux éditions J'ai lu, des petits livres rouges. Il y en avait toute une collection qui traitait de phénomènes paranormaux et difficile aujourd'hui d'aller dans des bouquineries sans tomber sur la collection des livres J'ai lu, qui ont été des livres littéralement phares dans les années 70 pour les discussions et la promotion des phénomènes paranormaux. Donc, le livre de Bernstein va être publié en français à la recherche de Bridie Murphy, début des années 70 en français, mais il paraît là en librairie dès 1956 dans sa version originale anglaise. Il se hisse presque immédiatement au sommet des best-sellers. Il va rester pendant 26 semaines sur la liste des livres les plus vendus en langue anglophone, tant aux États-Unis qu'en Angleterre. Il va se vendre plus de 200 000 copies en un mois seulement. Et, conséquence assez inattendue, les livres qui traitent de l'hypnose vont connaître une augmentation de 25% de leurs ventes. Et aujourd'hui, le livre « À la recherche de Bridie Murphy » ou « In Search of Bridie Murphy » s'est traduit en plus de 30 langues et il est toujours disponible et publié dans plus de 34 pays. Tu vois l'importance que cet événement-là a eu sur l'histoire du paranormal et surtout sur l'histoire de la réincarnation. Avec l'histoire de Virginia Tighe alias Bridie Murphy, on entre réellement dans ce questionnement. Est-ce qu'il est possible que la réincarnation existe? Et peut-on avoir des souvenirs en utilisant des mécanismes comme l'hypnose, aller chercher de l'information concernant ses vies antérieures? Et c'est là qu'on arrive dans le fameux débat du pour et du contre. Ça ne se fait pas aussi simple que ça. Bon, il faut dire que dès que le livre de Bernstein sort, des sceptiques se disent ben, « tout ça, c'est des fantasmes, c'est une histoire imaginée. » elle raconte
à peu près... Il y a beurré épais,
puis on aime ça. Puis comme je l'ai mentionné, c'est pas la première fois. Bernstein n'est pas le premier à faire ça. Depuis les années 30, on amène des gens à vivre des soi-disant vies antérieures, mais personne n'a réellement pris ça au sérieux. Bernstein, lui, présente ça comme étant quelque chose de très sérieux, et c'est vrai que sa candidate était tout à fait extraordinaire. Bridie Murphy, alias Virginia Tighe, raconte énormément de détails sur sa vie dans cette Irlande du 19e siècle. Alors, c'est fantastique. Mais bon, au départ, les gens qui vont faire des recherches vont découvrir que si on va à Cork, en Irlande, et on fouille dans les registres, on ne trouve absolument aucun registre qui évoque une famille Murphy qui vivait à Cork au début du 19e siècle. Donc là, on a une première faiblesse. C'est vrai, certains feront remarquer, hein, les défenseurs de Bridie Murphy, alias Virginia Tighe, alias Ruth Simons, vont dire « Oui, mais c'est vrai que les registres, ils ont raison. Hein, » Pour avoir moi-même mené ces propres recherches-là, je peux te confirmer que c'est vrai qu'en Irlande, avant 1850, donc longtemps après Bridie Murphy, après la naissance de Bridie Murphy et longtemps après la naissance de ses parents, ce n'est qu'à partir de 1850 qu'on a commencé à tenir des registres à date des naissances et des décès. Tous les décès et toutes les naissances antérieures étaient enregistrés dans les églises locales, mais c'était fait à la « va comme je te pousse ». Donc, on enregistrait une naissance sur trois, un décès sur dix. Donc, il faut pas trop se fier aux archives irlandaises avant 1850.
Et c'est fou, sachant qu'aujourd'hui, le certificat de naissance fait foi de tout.
Oui, et tu as tout à fait raison.
C'est ta preuve d'existence. Je trouve ça farfelu, mais c'était autre époque.
Ah oui, une autre époque. Et bien sûr, tu comprends que pour les ça tombe plutôt bien. Pour les défenseurs de Bridie Murphy, ça tombe plutôt bien qu'elle soit née dans une période où les registres n'étaient pas réellement tenus à date. En revanche, en fouillant dans les mêmes archives, ça fera pas plaisir aux sceptiques, là, mais il faut quand même le dire, on a trouvé un registre qui mentionne bel et bien, à Cork, un homme du nom de John McCarthy qui correspond à peu près à l'âge que donnait Bridie Murphy de son époux qu'elle va épouser alors qu'elle a 17 ans. Le problème, c'est est-ce que ce John McCarthy est le John McCarthy qui va être éventuellement l'époux de Bridie Murphy? On l'ignore parce qu'on n'a pas retrouvé d'acte de mariage et en dehors d'un acte de naissance à propos de ce John McCarthy qui a à peu près 21-22 ans au moment où Bridie Murphy va l'épouser alors qu'elle n'a que 17 ans. On perd sa trace à ce John McCarthy. On ne sait plus où il est, on ne sait pas où il va. Donc, si tu veux te ranger du côté de Bridie Murphy, tu peux toujours dire « ben on a retrouvé la trace de John McCarthy », mais pour un historien, c'est un peu faible. Un nom dans un registre, c'est un peu faible. Bridie Murphy dit qu'elle s'est mariée à l'église Sainte-Thérèse de Belfast. Le problème, c'est que l'église Sainte-Thérèse de Belfast n'a été construite qu'en 1911. Donc, longtemps après la mort présumée de Bridie Murphy. Donc ça, c'est malheureusement un point faible. À en croire Virginia Tighe, lorsqu'elle était enfant, Bridie Murphy dormait, comme on l'a entendu dans l'enregistrement, elle dormait dans un lit en acier. Elle dit « Je grattais la peinture sur le lit en acier parce que je trouvais que papa l'avait repeint d'une couleur que je n'aimais pas. » Le problème, c'est que les lits en acier n'ont fait leur entrée en Irlande qu'à partir de 1850. Donc, et à ce moment-là, si les lits en acier arrivent en Irlande en 1850, Bridie Murphy a alors 52 ans. Donc, un peu vieille pour gratter la peinture sur son lit d'enfant.
Beaucoup d'incohérences historiques, là.
Oui, donc voilà, à cette époque, les lits étaient toujours faits en bois. Donc, théoriquement, au début du 19e siècle, Bridie Murphy devait dormir dans un lit en bois. On a vérifié aussi la Queen University. Elle dit, mon époux, Monsieur McCarthy, enseignait le droit à la Queen University. Quand on a vérifié, on découvre que la Queen University n'a été inaugurée, en fait, qu'au tout début du 20e siècle. Donc, n'est pas du temps de Bridie Murphy. Par contre, c'est vrai qu'à l'endroit où il y avait l'université, il y avait autrefois un corps d'enseignement qui était là. Mais faut quand même avouer ici qu'on étire beaucoup la sauce. Ouais, il y avait une école construite dans le quartier, donc on essaie de faire un peu les coins ronds. Mais pour ce qui est de la Queen University, et Bridie Murphy mentionne bien la Queen University n'a été inaugurée qu'au début du 20e siècle, donc longtemps après la mort de Bridie Murphy, et on suppose longtemps après la mort de son époux. Les enquêteurs ont découvert qu'il existait toutefois, dans la région de Cork, en Irlande, une vieille tradition très peu connue, où les gens, lorsqu'ils se mariaient, dansaient avec la mariée, et mettait de l'argent dans les poches de la robe de la mariée. Et ça, c'est très peu connu. On n'a pas retrouvé d'ouvrage à grande diffusion qui évoque cette tradition qui était propre aux nouveaux mariés de la région de Cork. Et pourtant, sous hypnose, Virginia Tighe va raconter en détail cette curieuse cérémonie, ce curieux mariage, ou cette curieuse danse, où elle est au milieu de la salle et les gens vont danser avec elle quelques pas et mettre de l'argent dans ses poches. Les enquêteurs vont également découvrir, et là ça joue un peu comme la danse, ça va jouer en faveur du récit de Bridie Murphy, ils vont découvrir sur une carte de 1801, dans le village de Cork, ils vont découvrir qu'il y avait un petit quartier qui s'appelait de Meadows. Là où, où Virginia Tighe, alias Bradley Murphy, dit avoir grandi. Hein. Elle dit, on vivait un petit hameau qui faisait partie de Cork, qui s'appelait The Meadows. Or, on a retrouvé une carte de 1801 où on voit The Meadows. Et ce petit quartier, hein, ce petit hameau de Meadows, n'apparaît pas sur les cartes plus tardives. Donc, les cartes de 1840 ou de 1850 de Cork ne montrent plus ce petit quartier qui est pourtant nommément présenté sur la carte de 1801 et qui est bien sûr qui va dans le sens du récit de Bridie Murphy. Donc, ici, là, on serait tenté de se dire, il y a quand même des choses qu'elle dit ou qu'elle décrit qui sont assez bien, la cérémonie de mariage, Meadows, on a retrouvé un John McCarthy. Mais là, il y a quand même un os dans le fromage que Bernstein a omis de nous dire dans son livre et qui va être découvert par les enquêteurs. Lorsqu'elle était petite fille, Virginia Tighe a grandi à Chicago chez son oncle. Son oncle était d'origine norvégienne. Mais l'épouse de son oncle, donc la tante de Virginia Tighe, était mi-écossaise, mi-irlandaise. Pire, le voisin en face de chez eux s'appelait Bridie Murphy Corkwell. Et il était d'origine irlandaise. Donc là, tu te dis, wow, là, ça vient sérieusement d'ébranler le récit. On a déjà dans l'entourage de cette Virginia Tighe des gens qui ont quand même une connaissance de l'Irlande. Il y a même un immigrant irlandais qui habite en face de chez eux qui porte le même nom qu'elle va évoquer sous hypnose. Donc, et quand on pose à Virginia Tighe sous hypnose des questions plus pointues sur la politique, sur l'histoire sociale de l'Irlande au 19e siècle, des conversations qu'elle n'avait certainement pas sous les traits de Virginia Tighe avec sa tante et encore moins avec son voisin d'en face, évidemment, elle est incapable d'en parler. Elle ne sait pas à quoi ressemblaient les politiques ou la vie sociale de l'Irlande au 19e siècle, alors pourtant, elle a grandi dans ce milieu-là. Donc, quand on regarde cette histoire de Virginia Tighe alias Bridie Murphy, même dans les milieux de la parapsychologie, on reste divisé. D'un côté, il y a des gens qui disent « Il est possible qu'une partie de l'information de Bridie Murphy ait été obtenue. » Bridie Murphy alias Virginia Tighe alias Ruth Simmons, mais peu importe. On dit « Il est possible qu'une partie de l'information, cette Virginia Tighe, ait été la chercher d'une manière parapsychologique, hein, par une espèce de clairvoyance, elle a réussi à obtenir des informations qui éventuellement ont été confirmées par des enquêteurs sur le terrain. Donc, quelque part, sous hypnose, Virginia Tighe a fait preuve d'une qualité exceptionnelle de clairvoyance au point d'aller chercher de l'information concernant peut-être pas une jeune femme qui s'appelait Bridie Murphy, mais peut-être une femme, une personne qui aurait vécu dans l'Irlande du 19e siècle. Et d'un autre côté, d'autres parapsychologues qui se sont intéressés beaucoup à l'histoire de Virginia Tighe ont mis à jour un autre mécanisme de la mémoire qui était peu connu dans les années 1950, au moment où Virginia Tighe est placée sous hypnose par Bernstein, mais qu'on connaît aujourd'hui de mieux en mieux. Et c'est un phénomène qu'on appelle la cryptomnésie. La cryptomnésie est une étrange faculté qu'a notre cerveau d'emmagasiner de l'information à notre insu. Donc, parce que notre cerveau, évidemment, lorsque tu es dans une foule puis les gens parlent autour de toi, tes oreilles entendent tout.
Comme des antennes.
Ouais, tu sais, tes oreilles sont pas là à se dire « Bon, moi, ça, je filtre ça, j'écoute pas ça. » Et même quand tu dors, tes oreilles continuent d'entendre les bruits qui se passent autour de toi. C'est ton cerveau qui fait le filtre. Hein? Par exemple, si ton chat marche dans la pièce, ton cerveau, tes oreilles entendent le bruit du chat qui marche, mais ton cerveau se dit « Bon, je ne la réveillerai pas. » Parce que c'est quelque chose de tout à fait normal.
Ah, le mien, il marche pas. Parce que quand mon chat, il pense.
Mais dès que quelque chose, des fois, ça peut être très, très subtil, mais quelque chose d'anormal, par exemple. Un voisin ferait tourner, un voisin un peu ivre ferait tourner la poignée de ta porte. Tu vas te réveiller. Immédiatement, tu te dis, Parce que ton cerveau, tes oreilles entendent le bruit et là, se dit « Oh, ça, c'est un bruit pas normal et je vais la réveiller. » Donc, on voit que notre cerveau agit un peu comme un filtre. Et même s'il reçoit une quantité incroyable d'informations, la cryptomnésie, c'est le fait d'enregistrer de l'information à notre insu et à un moment donné, par un mécanisme X ou Y, dans le cas de Virginia Tighe, ça pourrait être l'hypnose, la cryptomnésie, le cerveau qui a emmagasiné de l'information, va la faire ressortir. Et c'est comme ça, elle a peut-être entendu, lorsqu'elle était enfant, sa tante, hein, qui, je te rappelle, était moitié écossaise, moitié irlandaise, elle a pu l'entendre se disputer ou entrer en conversation avec son oncle et lancer quelques mots en irlandais. Alors que Virginia Tighe, la mère de famille, elle n'avait jamais mis les pieds en Irlande, ne connaissait à peu près rien de l'Irlande, ne parlait pas les dialectes de l'Irlande. Sous hypnose, elle a été capable de lancer quelques mots, quelques phrases dans des patois irlandais. Alors pour les amateurs, ceux qui croient en la réincarnation, on s'est dit, ben c'est sûr qu'elle est allée chercher ça dans une mémoire de quelqu'un qui a vécu à cette époque-là. Mais peut-être qu'elle a simplement entendu ces mots prononcés par quelqu'un d'autre alors qu'elle était enfant. Elle avait 7, 8 ans. Ces mots ont été stockés, entre guillemets, quelque part dans sa mémoire. Et il aura suffi des séances d'hypnose de Morrie Bernstein pour raviver ces souvenirs-là. Et elle est allée chercher d'autres informations. Peut-être que quand elle était enfant, elle a vu à la télé des images de l'Irlande. Hein, elle a pu s'inspirer de ça. Ces images ont été conservées. Elle a peut-être lu un ouvrage qui parlait de son héroïne qui était peut-être allée faire un voyage en Irlande. Tu sais, du genre Martine en Irlande ou des trucs ouais. comme ça. Mais évidemment, tout ça a été, dans sa vie d'adulte, tout ça est relayé très, très loin dans sa mémoire. Et l'hypnose a pu mettre en parallèle ses souvenirs, cette cryptomnésie, donc ses souvenirs enterrés, qui ont été curieusement déterrés par les séances d'hypnose. Mais c'est sûr que ça ne répond pas à toutes les explications. Il y a des détails que Virginia Tighe a racontés sous hypnose qui sont particulièrement criants de vérité. Et donc, on reste un peu indécis entre la réalité d'un récit d'une vie antérieure ou le récit ravivé par l'hypnose avec un mécanisme de cryptomnésie. On l'ignore, mais une chose est certaine. L'histoire de la réincarnation a connu un momentum avec l'histoire de Brady Murphy. Il y a eu une vision de la réincarnation avant Virginia Tighe, alias Brady Murphy, et une vision de la réincarnation après Brady Murphy. Tout ça a changé un peu la donne, et encore aujourd'hui, on reste divisé sur l'importance parapsychologique de l'expérience, mais on n'a aucun doute sur l'importance historique de l'événement dans l'histoire de la parapsychologie.
Ben merci, Christian. Est-ce qu'on se laisse avec un extrait du film qui a été fait sur cette histoire-là?
Ah oui, ça, c'est le fun, hein, parce que, bon, on a fait le film In Search of Brady Murphy. Dans le film, bien sûr, on donne au nom, la femme s'appelle Ruth Simons, hein, parce que les articles de journaux, les livres, le livre de Bernstein présentait Virginia Tighe sous le pseudonyme de Ruth Simons. Et tu vas voir, j'ai choisi un extrait du film parce que, bon, il n'y a pas de bande-annonce. C'est un film qui date de 1956, 57, dans ces années-là, on n'avait pas la bande-annonce. Mais j'ai choisi, je l'ai à la maison, le film, et j'ai choisi un passage du film où on voit exactement la scène que je t'ai fait entendre sous hypnose. Hein? Lorsque Bernstein dit à Virginia Tighe « Qui es-tu? Je m'appelle Brady Murphy. » On a entendu la véritable bande audio. Et vous allez voir à quel point, peut-être à cette époque-là, on était plus préoccupé. Quand on disait « basé sur une histoire vraie », on était plus préoccupé d'être proche de la réalité. Parce que, écoute, le discours, il est mot à mot la transcription de la bande audio enregistrée par Bernstein. Donc, voici maintenant, c'est pas la bande audio originale que vous allez entendre, mais bel et bien un extrait du film « In Search of Brady Murphy ». Et vous allez pouvoir être à même de juger à quel point la scénarisation est demeuré proche de la réalité des bandes enregistrées par Bernstein.
Ce sera avant de faire une courte pause et on va être de retour tout de suite après dans Radio X-Files.
Because in a moment we're going to try and go even further back.
Haven't you gone back far enough?
Ruth, would you sooner not go back any further?
Don't mind.
All right. we're going to drift back through time and space. Back, back, as far back as your memory can go. Whatever you see, try and tell me about it. Yourself?
Yes.
Do you still know what your name is?
Uh-huh. Bridie.
Your name is what?
Bridie.
Well, don't you have any other names?
Bridie Murphy.
Where do you live?
In Cork. Cork.
What is the name of the country in which you live?
It's Ireland. Ireland.
How old are you?
4 years old.
Are you a girl or a boy?
A girl.
What are you doing?
My bed. Just painted it and made it pretty and
Radio X Files avec Christian Page et Camille.
Radio X.
À 19h54 minutes, on ne peut pas se laisser, Christian, sans que je te pose cette question-là. Je te donne mes théories après avoir parlé de l'histoire de l'affaire de Bridie Murphy. On a parlé effectivement que les ufologues.
Oui, ben, les ufologues, c'est ceux qui s'intéressent aux ovnis.
Oh, non, ouais. Non, mais les experts, tiens.
Les parapsychologues.
Les parapsychologues,
disons, qui ont été dressés à ça.
Les parapsychologues, merci beaucoup. On dit, bon, peut-être que c'est la kryptonésie, ou encore elle s'est appropriée des souvenirs d'enfance d'une autre personne. Mais moi, je te pose cette question-là. J'ai tendance à m'orienter dans cette traque-là. Pourquoi pas la Bridie Murphy en question? Notre Virginia Tech ne serait-elle pas aux prises avec un dédoublement de personnalité? Est-ce qu'il y a eu des analyses psychologiques approfondies faites sur elle?
Non, pas vraiment. C'est une femme qui ne présentait pas de pathologie particulière et dans la vie de tous les jours, elle ne se prenait pas pour Bridie Murphy. Hein? Donc,
non,
il va falloir un certain temps avant qu'elle reconnaisse. Elle va même participer. Hein? C'est assez amusant parce que j'ai vu des images en noir et blanc où un jeu qui s'intitule « Qui dit la vérité? » Puis on a eu ça un peu le même jeu au Québec. Hein? C'est trois personnes qui disent « Je m'appelle Jean-Paul Dubé. Je m'appelle Jean-Paul Dubé. Puis je m'appelle Jean-Paul Dubé. » Donc, les trois s'appellent Jean-Paul Dubé. Puis les dit raconte, j'ai été électricien. Fait que là, il faut que le panel détermine qui est le vrai Jean-Paul électricien.
Okay.
Donc, dans un jeu comme ça, dans les années, on est fin des années 50, début des années 60, elle se présente sous le nom de Virginia Tye. On voit trois femmes, puis elle dit, je suis Virginia Tye. Et elle, les trois dames ont la prétention d'être la Bridie Murphy. Et à la fin du jeu, ben, la vraie Virginia Tye se lève et dit, c'est moi, Virginia Tye. Mais en dehors d'avoir participé à un jeu comme ça, qui était peut-être l'une des très rares apparitions publiques sous son véritable nom, jamais dans sa vie, Virginia Tye a joué à être Bridie Murphy.
Okay.
Mais la problématique, tu la soulèves bien, c'est le fait que Bernstein a utilisé de l'hypnose. C'est un peu ce qui vient brouiller les cartes. Est-ce que Virginia Tye avait de véritables souvenirs de son enfance où il y aurait pu y avoir des éléments qu'elle a incorporés dans son narratif, ou est-ce qu'elle est allée chercher l'information ailleurs? Et c'est pourquoi aujourd'hui, les chercheurs sérieux qui s'intéressent au phénomène de la réincarnation vont éviter d'utiliser l'hypnose. C'est le cas par exemple, il y a eu un grand chercheur qui a marqué l'histoire de la recherche, entre guillemets, sur la réincarnation. Il s'appelle Ian Stevenson. C'est un type qui est un Montréalais, qui a fait ses études à l'Université McGill, et ensuite, il est allé pratiquer du côté des États-Unis, en Virginie. Il est décédé en 2007. Hein? Il avait 88 ans à l'époque. Mais dans les années 50 et 60, ce Ian Stevenson s'est beaucoup intéressé à la réincarnation, et je te cacherai pas que le récit de Virginia Tye est un élément marquant marquant pour Ian Stevenson, mais il avait, comme bien d'autres chercheurs comme lui, avait compris le danger de l'utilisation de l'hypnose. Et Ian Stevenson est allé donc du côté de l'Inde, hein, un pays où là, on croit à la réincarnation et on encourage les enfants à parler de leurs souvenirs de vies antérieures. Alors que dans les pays occidentaux, si un enfant vient te voir et dit « Oh, je me rappelle que dans ma vie antérieure, j'étais un pilote d'avion », ben les parents auront tendance à dire « Bah, c'est de l'imagination. »
C'est ça, c'est quoi le nom de ton ami imaginaire, là?
Voilà, c'est ça. Alors que dans des pays comme en Inde, par exemple, on encourage les enfants à raconter leur histoire. Ian Stevenson est allé en Inde, puis là, je sais que le temps file très rapidement, puis ça serait long de parler de ça, on sera peut-être une émission là-dessus.
Oui.
Mais Stevenson est allé là-bas, parce que je trouve ça fascinant, il est allé rencontrer des enfants qui avaient des souvenirs de vie antérieure, qui racontaient spontanément, donc sans hypnose. Je me rappelle que dans ma vie antérieure, j'étais un tel et un tel et un tel, ils racontaient des détails de leur vie. Ces enfants-là étaient des enfants souvent très isolés, dans des régions très rurales. Ian Stevenson a mené des investigations et dans 20 de ces cas-là, il a pu retrouver des événements historique, dont l'enfant n'aurait pas pu être au courant. Il n'y avait pas de radio, pas de télévision, pas de journaux. D'aucune façon, ces enfants auraient pu être contaminés de quelque façon que ce soit par un mécanisme médiatique. Et pourtant, ils ont fourni des informations tout à fait extraordinaires. En 1966, Ian Stevenson va publier un ouvrage marquant, un ouvrage phare, presque autant important que l'histoire de Bridie Murphy, un ouvrage qui s'intitule « 20 cas suggérant la réincarnation », en pas prouvant la réincarnation, mais suggérant la réincarnation. Et dans ce livre-là, Ian Stevenson dit « Si j'élimine le concept de la réincarnation, je n'ai aucune, et c'est un psychiatre qui parle, je n'ai aucune explication thérapeutique, médicale, pathologique à fournir pour justifier comment ces enfants-là ont pu raconter de tels récits, avoir un narratif aussi présent, un narratif aussi détaillé. Donc, 20 cas suggérant la réincarnation va devenir un ouvrage phare comme le récit de Virginia Tighe. Et bien sûr, ne pas oublier dans toute cette histoire, notre pape du spiritisme, Allan Kardec, qui nous a ouvert sur une nouvelle vision dans le monde occidental sur ce qu'est le phénomène de la réincarnation. Un phénomène fascinant et pour lequel on n'a pas toutes les réponses.
Sachant que l'imagination est un terreau tellement fertile, sans frontières en plus, on va toujours rester dans un flou à se dire ici c'est inventé, mais de là à être autant précis et concis dans les détails,
ouais, c'est pour ça que Stevenson ne dit pas 20 cas prouvant la réincarnation, mais 20 cas suggérant la réincarnation. Et je vais t'avouer que tantôt, là, quand on a entendu la bande audio originale de Virginia Tighe qui raconte son histoire de Bridie Murphy, ça fait 1000 fois que je l'entends, puis j'ai toujours un peu des frissons parce que on vient d'entendre un moment de l'histoire. Hein, ceux qui s'intéressent au paranormal, à la parapsychologie, c'était l'histoire qui était en marche à ce moment-là. Ni Virginia Tighe, ni Maury Bernstein étaient conscients de ce qui était en train de se passer. C'est fabuleux.
Ben merci, Christian.
Ça m'a fait plaisir.
Ce soir, encore une fois. Ça va être disponible au www.radiox.com ce soir. Et on se dit à demain. Demain, spécial théorie du complot.
Oui, bien sûr. On va parler un peu de la princesse Diana.
Oh, excellent. En plus, je crois que...
25 ans demain.
C'est pas longtemps. Ma mère, elle me dit que j'ai perdu mon nombril quand elle est décédée. Fait que tu vois, ça trahit mon âge.
Le mien était déjà sec.
Bonne soirée, Camille. On en parle à toi aussi. À demain, Christian. Bye-bye.
Ciao.